Salut et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la Ape List. La Ape List qui est un spin-off de Cornelius Enzira, un podcast consacré à la culture bis et plus principalement à la planète des singes. Donc ma précédente Ape List avait un sujet pas tellement très joyeux et donc je me suis dit qu'on allait faire une petite Ape List de deux saisons consacrée à la Toussaint. Voilà, parce que personnellement, l'automne, c'est pas la saison que j'aime le moins, c'est peut-être même une de celles que j'aime le plus. Je suis pas un grand fan du soleil. Bon, ok, hein, faut synthétiser la vitamine D, tout ça, c'est bien. Mais voilà, le soleil, c'est pas mon meilleur ami. Et donc, quand l'automne vient, je suis content. On peut aller courir dans les bois sans avoir peur de choper la maladie de Lyme. Et puis voilà, quoi, on peut s'envoyer de la musique un peu sombre, c'est de circonstance. Donc voilà, vous l'aurez sûrement compris, hein, cette Ape List est juste un prétexte à dégainer 10 morceaux qui parlent plus ou moins de la mort, voilà, vu que la Toussaint, c'est la fête des morts. Et voilà, j'ai pas préparé plus que ça, j'ai juste les 10 premiers titres qui me sont passés par la tête, j'ai chopé les disques, ils sont là à côté de moi, il n'y a pas plus de préparation que ça, parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de vous concocter un nouvel épisode consacré donc à Planet of the Apes, le film de 1968. Donc, tant qu'à passer du temps à préparer quelque chose, je préfère le faire là-dessus. Donc là, on va faire quelque chose de franc du collier. On passe un morceau. Juste avant, je vous dis les 2-3 trucs que j'ai à dire dessus, ce qui me passe par la tête. Et c'est parti. On est juste là pour se faire plaisir et pour passer un bon moment. Donc, pour ceux qui auraient écouté mon épisode pilote, qui était consacré au festival de Gérardmer, ceux-là se rappelleront qu'entre chaque film, j'avais décidé de passer un morceau dont les paroles ou le thème étaient plus ou moins en lien avec le film dont je venais de parler. Et il se trouve que le hasard a fait que la plupart des morceaux que j'ai passés étaient des groupes de Besançon. Et du coup, on va rester dans la tradition, on va attaquer avec un groupe de Besançon qui s'appelle Hellbats. Je vais vous passer un morceau qui est le tout premier morceau, qui est l'ouverture de leur quatrième album qui s'appelle One Minute Suicide et qui était sorti en 2009. Donc un morceau qui s'appelle A Beautiful Death, donc voilà, une belle mort. Que dire à propos de Hellbats? C'est un groupe qui a pas mal évolué avec le temps, donc c'est quelque part entre le psychobilly, la noise, le metal, le punk, le hardcore, enfin c'est un savant mélange de plein de choses. Le dosage change un peu en fonction des albums, il y a eu des albums enregistrés avec une contrebasse, d'autres avec une basse. Cet album-là, je crois qu'il n'y a que de la basse. La contrebasse a fait son retour sur l'EP qui a suivi, qui était hyper bien. Mais voilà, ce morceau, Beautiful Death, c'est vraiment un de mes morceaux préférés de Hellbats. Ouais, que dire de plus? Que la scène bisontine est un petit peu consanguine et il se trouve que le chanteur d'Hellbats est désormais le chanteur de The Black Zombie Procession. Donc les deux groupes sont assez liés, que ce soit dans les thèmes qu'ils abordent, et puis ouais, dans l'état d'esprit, dans le sens où ils se prennent pas la tête, quoi. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, peu importe le style. Et voilà, allez, j'en dis pas plus, A Beautiful Death. Thank you. Allez, on va continuer avec la thématique byzantine, un autre groupe de Besançon qui est également lié à Black Zombie Procession, dans le sens où c'est un groupe qui le précède. Il s'agit bien évidemment de Second Right, un groupe que vraiment j'aime énormément, et il se trouve que il y a un morceau sur leur premier album, donc c'est un morceau qui s'appelle « Death Takes Me Away », et donc l'album s'appelait Grinding to Dust 2 Years Somewhat Insane, un disque qui était sorti sur le label de Kérosène, qui était un fanzine nancéen, bon, qui ensuite était parti, s'était délocalisé dans l'ouest à Montaigu, mais voilà, c'est un fanzine moi que j'ai énormément lu quand j'étais lycéen, étudiant. Ça, j'ai en grande partie forgé ma culture musicale en lisant ce zine. Et donc Dan, qui était derrière Kérosène, était ultra fan de Second Right, donc il leur avait filé un coup de main en sortant le disque sur son label. Enfin, c'était une coprod avec Vampire Records, qui, si je dis pas de conneries, était le label d'un des gars de Second Right, et Presto Records, qui a aussi sorti pas mal de disques de groupes de Besançon, qui s'appelle maintenant, le label a changé de nom, maintenant ça s'appelle Dirty Witch, mais c'est la même personne qui est derrière. Que dire à propos de ce disque? Il était sorti en 2000. Avant ça, je crois que c'était en 98 ou 99, Second Right avait sorti un maxi CD, comme on disait à l'époque, qui s'appelait Nice Line Life. Pareil, qui était sorti chez Vampire Records et Presto Records. Avant ça, ils avaient Second Right, c'est un groupe qui s'était formé fin des années 90. Ils avaient sorti des démo cassettes, je crois un 45 tours, et donc ce méga CD. Fin 2000 ou début 2001, je sais plus. Donc ce premier album qui avait été suivi par deux splits, un split avec les Anglais de Scuttle, qui je pense est mon disque préféré de Second Right, et également un disque avec les Spinaliens de Flying Donuts. Et après ça, ils avaient sorti un deuxième album posthume qui s'appelait Last Days of Glory. Donc ouais, la Second Right, c'est un groupe qui finalement n'a existé que 5 ans, mais qui a vachement marqué toute la scène indé française. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a énormément marqué. Et un groupe séminal, parce que voilà, il y a plein d'autres groupes qui sont formés sur les cendres de ce groupe-là, hein, Los Cowboy Heroes, Hawaii Samurai, et donc The Black Zombie Procession. Notamment, hein, y en a d'autres, hein, j'en ai oublié, Générique, qui était un duo basse-batterie avec donc l'un des bassistes de Second Right, parce qu'il y a eu en tout 3 bassistes, je crois, et le batteur-chanteur de Second Right, parce que oui, particularité de Second Right, c'est le batteur qui chante. Et donc je pense que tous ces disques sont désormais inépuisables. Non, justement, ils sont épuisés. Inépuisables parce qu'on peut les écouter sans arrêt, mais malheureusement, ils sont épuisés. Par contre, il y a de cela presque 2 ans et demi, je crois, le label Kicking Records avait ressorti une discographie en vinyle, en trois disques. Hein, il y avait, je crois, un simple et 2 doubles. Et donc ça, je pense que c'est encore disponible. We'll be right back. Bon allez, après Besançon, on va enchaîner, on va monter un peu plus au nord, en Suède. Donc là, je vais vous passer un morceau de Breach. Donc ouais, je l'ai dit, un groupe suédois qui faisait partie de l'écurie Burning Hearts. Donc Burning Hearts, que bon, qui est surtout connu pour avoir sorti pas mal de disques de hardcore mélo. Hein, voilà, je veux dire, Burning Hearts, c'était Millencolin, 59 Times the Pain, tous ces groupes-là. Mais également bah, des trucs un peu plus sombres, comme donc Breach, qui était plus quelque part entre la noise, le hardcore, le metal, ouais, des trucs un peu plus, ouais, un peu plus dark. Alors, je sais plus combien de disques ils ont sorti. Donc là, le morceau que j'ai choisi s'appelle Pleasure Dome, avec des paroles tout à fait sympathiques, hein, et tout à fait dans la thématique. Et ouais, extrait donc d'un album qui s'appelait Venom et qui était sorti en 99. Donc ouais, Venom, hein, vous avez capté. Donc référence au vieux groupe de métal. Il y avait également sur ce disque un instrumental qui s'appelait Black Sabbath. Donc tout de suite, voilà, il vous mettait clairement dans l'ambiance. En mode on vient de la scène hardcore mais on aime le métal et voilà, ouais, quoi dire à propos de Breach. Voilà, c'est vraiment un groupe que j'ai beaucoup aimé. Avant ce disque-là, ils avaient sorti un Scud en 97 qui s'appelait It's Me God. Suite à Venom, peu de temps après, ils avaient sorti un EP qui s'appelait Godbox, qui est un de mes disques préférés de Breach, qui était sorti sur Chrome Saint Magnus. Donc un label allemand, pas donc du coup celui-là pas sur Burning Hearts. Après ils avaient sorti un album hyper bien qui partait dans des choses un peu plus peut-être un peu plus conceptuelles qui s'appelait Collapse et je sais plus sur quel label était sorti celui-là. Enfin bref, voilà, Breach, un groupe vraiment super bien si vous aimez les ambiances un peu sombres, un peu pesantes, mais en même temps ils étaient aussi capables de dégainer des morceaux avec un côté un peu rock'n'roll. Ouais. Pareil, Breach, un groupe un peu inclassable. On a tendance à les mettre dans la grande famille de tous ces groupes influencés par Neurosis, mais je pense que c'est assez réducteur. Voilà, leur palette était assez large, et c'est un groupe. Ouais, cet album Venom, mais je l'ai écouté mais en boucle, quoi. Je l'ai vraiment usé. Et voilà, quoi. Pas la peine d'en dire plus. Bon, indirectement, j'ai évoqué Black Sabbath et Venom en parlant du morceau précédent. Et bien là, on va évoquer un autre groupe de légende, donc à savoir Motorhead. J'ai décidé de vous passer un morceau qui s'appelle Kill by Death. Alors j'ai choisi de vous passer la version live. Je trouvais ça marrant de passer un live pour, voilà, pour une chanson qui parle de la mort. Donc un live qui date de 99 et qui s'appelle Everything Louder Than Everything Else. Donc tout est résumé dans le titre. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Motorhead, hein. Je pense que tout a déjà été dit sur ce groupe qui, pareil, voilà, hein. Même si Lemmy a toujours dit que lui faisait juste du rock and roll, bon, bah, c'est un groupe qui a le respect de plein de gens. Je veux dire, que vous alliez à un concert de punk, de hardcore, de psycho, de metal ou de hard rock, ou peut-être même de blues, j'en sais rien, il y a de fortes chances que vous croisiez un mec qui a un t-shirt Motorhead. C'est un groupe qui, voilà, qui a un respect. Je pense que là-dessus, il y a une sorte d'unanimité dans quasiment tous les styles qui touchent de près ou de loin au rock. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un groupe hyper important. Bon, puis ça tient aussi à la personnalité de Lemmy, hein, qui avait ce côté bigger than life. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu le docu qui était sorti sur lui il y a quelques années, qui est juste formidable. Enfin, c'est impossible de regarder ce docu et de pas être fan de Motorhead après. Ouais, donc finalement, bah, peut-être je vous en parler de manière un peu plus personnelle. Le rapport que j'ai avec Motorhead, je vais pas vous la jouer vieux de la vieille en disant que j'ai toujours été à donf dans Motorhead, que j'ai toujours écouté, parce que faut quand même pas occulter le fait que dans les années 90, bah, Motorhead, c'est un groupe qui a été un petit peu ringardisé. Et franchement, le premier pote que j'ai eu qui avait acheté, je me rappelle, il avait acheté 1916, enfin 1916, hein, et on s'était foutu de sa gueule. Ouais, vas-y, c'est quoi ce truc de vieux que t'as acheté, quoi? Bon, je devais avoir 11-12 ans, hein. Faut quand même remettre les choses dans le contexte. Et donc oui, en grandissant, j'ai quand même découvert à quel point Motorhead est un groupe génial. Et finalement, j'ai vachement replongé dedans il y a quelques années, en fait, avec mon fils qui a beau être tout petit. Bah, j'avais un morceau sur une compile, une reprise de Ace of Spades en version country bluegrass, et il a kiffé à mort cette chanson. Et un coup, je lui ai dit, mais tu sais que c'est pas la vraie, en fait. Je vais te faire écouter le vrai morceau, quoi. Et là, bah, il avait beau avoir que 4 ans, il s'est passé un truc Motorhead, mais il adore, quoi. C'est son groupe préféré. On a un morceau de Motorhead, il a des étoiles dans les yeux, il est super content. Et du coup, je me suis complètement replongé dans la discographie de Motorhead, pour redécouvrir que finalement, c'est un groupe comme ça, on en a l'impression que c'est hyper monolithique, que c'est comme les Ramones, quoi, que chaque album est identique au précédent, et finalement, c'est pas vrai du tout. La palette de Motorhead est beaucoup plus large qu'on pourrait le penser au premier abord. Et puis en plus de ça, voilà, Lemmy était un songwriter exceptionnel, les textes sont vraiment super. Et du coup, ouais, je réécoute très régulièrement Motorhead pour le plus grand plaisir de mon fils. Et je suis content de partager ces moments père-fils, quoi. Et d'ailleurs, ouais, quand Lemmy est décédé, bah, ça m'a. Je crois que c'est une des premières fois, avec la mort des membres des Ramones, mais c'est vraiment une des premières fois où j'étais vraiment triste. Que voilà, quoi, que quelqu'un, qu'un personnage public que moi, que j'ai pas connu personnellement, mais ouais, j'ai vraiment eu de la peine, quoi, presque comme si j'avais perdu un pote. Et je savais pas comment le dire à mon fils, en fait. J'étais un peu emmerdé. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou pas que Lemmy est mort? Et c'est bah, quelques temps après, quand David Bowie est mort, du coup, j'ai eu envie comme ça de me réécouter du Bowie. Bon, c'est pas exactement la couleur musicale que j'écoute habituellement. Et mon fils me dit, ah, pourquoi t'écoutes ça, papa? Et puis là, je lui dis, bah, tu sais, j'ai eu envie parce que le monsieur qui chante, bah, en fait, il vient de mourir. Et puis dans la foulée, je me suis dit, allez, il faut lui dire, tu sais, Lemmy aussi, il est mort. Il est mort il n'y a pas longtemps. Et donc, ouais, j'ai vu que ça doit être un petit bout, ça lui a fait un petit quelque chose. Et du coup, en fait, bah, pour le consoler, je lui dis, mais tu sais, Lemmy, toute sa vie, il a fait du rock and roll. Et c'est juste ce qu'il voulait, quoi. Donc, faut pas être triste. Lemmy, il est mort heureux. Et c'est drôle parce que, ouais, en consolant mon fils, eh ben, j'ai l'impression que je me consolais moi-même, quoi. Donc, voilà. Donc ça devait arriver, hein, voilà, Lemmy l'avait chanté, Kill by Death, bah, voilà, ça arrivera à tout le monde, et ça a fini par lui arriver à lui également. Bon allez, on va rester dans les îles britanniques et toujours un morceau live en fait. Je sais pas pourquoi, quand j'ai pensé à cette thématique, j'ai repensé à un morceau de Paradise Lost qui s'appelle As I Die. Et alors là, je vais vraiment pas vous mentir, Paradise Lost, c'est un groupe que bien sûr que le nom est super connu, mais en fait j'ai jamais vraiment écouté. C'est juste que j'avais ce morceau sur une compile qui à la base me plaisait pas trop. Voilà, je vous parle d'une époque, les années 90, où le MP3 on savait même pas ce que c'était. Alors Deezer, Spotify et toutes les conneries comme ça. Alors là, voilà, c'était de la science-fiction, on n'avait même pas idée qu'un jour il y aurait un truc pareil qui existerait. Et donc, je devais avoir, je sais pas, une trentaine de CD et une cinquantaine de cassettes. Donc, quand t'avais un disque, tu l'écoutais en boucle et t'écoutais tout, quoi, même les morceaux que t'écoutais pas. Et au bout d'un moment, ce morceau, j'ai fini par bien l'aimer. Mais ça m'a jamais donné envie de creuser plus loin. Donc, la seule chose que je pourrais vous dire à propos de Paradise Lost, hormis le fait qu'ils sont britanniques, c'est que le nom vient d'un poème de John Milton. Voilà. Allez, on va quitter les îles britanniques, mais on va rester dans le milieu des années 90. On va descendre un peu au sud, jusqu'à Paris, voilà. Et je pense qu'on va rester en France pour toute la suite de cette Ape List. Donc ouais, je vais vous parler de Kickback en fait, parce que j'ai choisi un morceau issu de leur premier album qui s'appelait Cornered, et donc bah, je veux dire, le morceau qui ouvrait ce disque et qui s'appelait Resurrect. Donc voilà, hein, résurrection, on reste dans le thème de la mort. Après, c'était pas, ils en parlaient plus au sens figuré, donc, mais peut-être déjà un peu parler de Kickback. C'est un groupe un peu controversé, hein, parce que, voilà, donc le hardcore dans ce mouvement-là, il y a une partie un peu positive hardcore où c'est une musique qui est censée donner la pêche, donner des good vibes. Et puis, il y a une approche un peu plus négative, et clairement, Kickback, ils sont du côté obscur de la force. Donc ouais, c'est un groupe vraiment vénère avec ouais, qui fait vraiment pas l'unanimité en termes d'attitude, on va dire. Mais il se trouve que ouais, ce premier album, donc ouais, quand il est sorti, bah voilà, moi j'avais 14 ans. En plus, ouais, la pochette, c'est un truc un peu un dessin un peu manga avec un espèce de bonhomme, il ressemble plus à un méchant de Dragon Ball, mais qui est en train d'éclater des espèces de démons, tout en tenant dans ses bras une nana, voilà, avec une poitrine plutôt opulente. Enfin bref, tout dans le bon goût, quoi. Et ouais, ce côté ultra vénère, et ben ouais, moi quand j'étais ado, ça me séduisait quand même. Alors étrangement, ouais, je sais que la plupart de mes potes ont surkiffé l'album suivant qui s'appelait Forever War, mais moi du coup c'est un peu là où j'ai lâché parce que voilà, donc eux ils étaient dans un mélange hardcore, ouais, entre le hardcore et le métal, et après ils ont viré un peu plus leur cutie vers le métal et moi je m'y retrouvais moins. Et puis peut-être aussi que voilà, autant à 14-15 ans je pouvais écouter ça au premier degré, trouver ça cool, plus trouver ça, je trouvais plus ça marrant après, j'ai peut-être encore pas assez de recul pour écouter ça au second degré. Voilà, toujours est-il que moi, pour moi, avec Kickback, l'histoire elle s'arrête au premier album. Et donc, quant à la thématique de ce morceau, bah pareil, hein, c'est vraiment pas original, hein, c'est un thème qui revient souvent dans le hardcore, le côté, voilà, vous pourrez m'en mettre plein la gueule, mais je me relèverai toujours. Donc voilà, finalement, étrangement, c'est un truc qui sonne très négatif, mais c'est des paroles finalement positives, dans le sens, ouais, quoi qu'il arrive, je me relèverai, j'irai toujours de l'avant, et je reviendrai d'entre les morts. For something I can't. Voilà, on va rester à Paris. Et donc là, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Smell of My Death de Unlogistic. Donc Unlogistic, bah justement, finalement, eux aussi, ils sont voilà, groupe de la scène hardcore parisienne. Vraiment exactement la même, même endroit, même période que Kickback, mais justement, eux sont dans le côté bah, un peu plus punk, un peu plus, enfin, un peu plus même carrément déconnant. C'est une musique qui donne la patate, qui, ouais, qui donne le smile, et eux, ils ont ouais, côté très DIY, un peu bordélique, donc pas de batterie, hein, comment, une boîte à rythme en mode survénère, et voilà, quoi, c'est un espèce de cocktail ultra vitaminé, un peu débilos. Ils ont sorti une chier de EP de 45 tours. D'ailleurs, un des tout premiers vinyles que j'ai acheté, un des tout premiers 7 pouces que j'ai acheté, c'était leur EP Total Abuse qui était sorti chez Diabolik, à une époque où Diabolik c'était pas une marque de fringues, hein, c'était un label. Et ouais, je me rappelle, je l'avais acheté sur une distro en même temps que le split Burning Heads Marches. Et donc ouais, ça date pas d'hier, ça doit dater de 99, je crois. Je crois que le EP date de 98. Mais toujours est-il que là, j'ai choisi... Alors, je m'y perds un peu dans leur discographie, parce qu'elle est un peu disparate. Ils ont sorti plein de disques. Je crois même qu'ils ont sorti un disque avec une batterie. Et donc, ouais, celui-là, il est issu d'un disque qui s'appelait Capitulation, qui était sorti dans un beau coffret que je suis en train d'ouvrir en ce moment même. Et donc, il y avait ouais, un album, un DVD et un disque qui regroupait toutes leurs démos et EP qui avaient été enregistrés entre 96 et 2000. Du coup, ouais, il n'y avait pas le split avec Sinews, qui est peut-être mon disque préféré d'Unlogistic. Donc voilà, finalement, je vais pas trop présenter le style, vous allez voir, vous allez vite vous rendre compte par vous-même à quoi ça ressemble, mais par contre, ouvrez bien les oreilles parce que ça va aller très très vite. Et comme promis, on reste en France, mais on pique vers le sud, on va à Montpellier, parce qu'on va s'écouter un morceau de Tantrum, qui était issu de leur album The Frontier Burst Into View, qui était sorti en 2004 chez Radar Swarm. Et alors, pour vous présenter Tantrum, à la base, c'est un side project de Pierre Viguier, qui à l'époque jouait dans Drive Blind, donc un groupe idem, hein, qui était basé entre Nîmes et Montpellier, un groupe qui était plutôt power pop. Et donc, milieu des années 90, faut savoir qu'en France, on avait une super scène noise, il y avait avec des groupes comme Portobello Bones, Condense, Sleepers, vraiment, il y avait. Je sais pas s'il y en avait peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, il n'y avait peut-être pas la quantité, mais il y avait la qualité. Je me rappelle même qu'il y a quelques années, j'avais lu une interview d'Unsane où il citait justement tous ces groupes-là, également à Int, qui avait fait aussi un split avec Unsane. Donc voilà, même à New York, on reconnaissait qu'en France, il y avait une très bonne scène noise. Et du coup, bah ouais, je pense que Pierre Viguier a eu envie lui aussi de faire un truc un peu plus lourd, un peu plus sombre. Et donc, avec deux autres acolytes, il avait formé Tantrum et donc sorti en 95 un premier album qui, je sais pas s'il avait un titre. Non, il en avait pas. Et ce qui est assez marrant, c'est que après ça, Drive Blind a sorti un album absolument génial qui s'appelle Be a Vegetable, mais qui finalement était un espèce de savant mélange entre la noise de Tantrum et la power pop de Drive Blind, à plus forte raison parce que au final, ils auraient presque pu changer de nom parce que les deux autres membres de Tantrum avaient intégré Drive Blind. Donc, et en fait, pourquoi je parle de cet album, c'est parce qu'il y a pas si longtemps que ça, il a été réédité en vinyle. Il était jamais sorti en vinyle. Il était réédité en vinyle avec quelques petits morceaux en bonus, donc par le label montpelliérain qui s'appelle Head Records. Donc ouais, un disque que j'étais très content de rechoper en vinyle et voilà, je l'ai réécouté, ça m'a rappelé plein de bonnes choses. Be a Vegetable, idem, c'est un disque, mais je l'ai. D'abord, je l'avais en cassette, et cassette que j'ai surusée, ensuite je l'ai retrouvé en CD d'occasion, et puis donc là, j'étais content de pouvoir. Ah, il y a mon chat qui arrive. Ouais, donc content de pouvoir l'avoir en LP. Et donc du coup, bah, Tantrum, moi j'ai commencé à écouter parce que justement, après le split de Drive Blind, donc juste après la sortie de Be a Vegetable, ben, je m'étais consolé avec le deuxième disque de Tantrum qui s'appelait Twisted in Anguish, qui était sorti en 97. Pareil, je pense que c'est mon disque préféré de Tantrum, mais idem, là, ils auraient presque pu changer de nom parce qu'au final de la formation d'origine, ben, il ne restait plus que Pierre Viguier, justement. Mais après, ouais, le batteur et le bassiste qui vont le rejoindre resteront donc pour le. Donc ils seront. Ah, il y a mon chat qui est en train de tout casser. Et donc ouais, le bassiste et le batteur resteront donc pour le EP qui suivra et sur donc l'album dont je vous parlais The Frontier Burst Into View. Et puis ouais, c'est vrai que c'était parti, ils avaient autant le premier album de Tantrum restait un peu gardait un petit côté un peu punk pop quand même, hein, c'était juste plus lourd, on va dire. Là, il partait vraiment plus vers quelque chose de plus sombre, de plus hardcore. Et je dois avouer qu'en 2004, quand ce disque est sorti, je trouvais qu'il était un peu trop influencé par toute la scène Hydrahead, hein, tous les groupes Butch, Cavin, ces trucs-là, qui étaient pas spécialement ma came, qui le sont toujours pas d'ailleurs. Et du coup, ouais, quand il était sorti, j'avais été un peu déçu, parce que justement, je trouvais que Tantrum était une sorte de chaînon manquant entre cette noise à la française et ce hardcore metal un peu sombre qui venait des États-Unis, un truc un peu tordu comme ça, et je trouvais qu'ils avaient peut-être un poil perdu de leur identité dans ce disque-là. Mais finalement, j'avais quand même fini par l'acheter en vinyle quelques années plus tard et il passe bien. Et donc le morceau que j'ai choisi s'appelle Dead End qui parle justement du fait de ouais, d'un peu suivre les modes et qui dit que voilà, qu'il y a toujours une bonne raison pour mourir à 25 ans. Ce qui fait qu'il a parfaitement sa place dans ce morceau, dans cette Ape List spéciale Toussaint. Et puis ouais, je pense que c'est vraiment le morceau que je préfère de cet album parce que on retrouve un petit peu des accents de ce que fut par le passé Tantrum et Drive Blind. on va remonter un peu au nord, mais pas trop, hein. On va aller dans les coins de Lyon. Et bon, on va quand même terminer avec des morceaux, bon, qui la thématique reste la même, mais au moins les sonorités vont être un peu plus légères. Et donc, on va s'écouter un morceau de Not Scientist. Alors, j'avais déjà passé un morceau d'eux à la fin de l'épisode consacré à l'adaptation de Dune par Alejandro Jodorowsky. Et là, ouais, donc, je vous passe un morceau qui est issu du même 45 tours, donc qui s'appelle Leave Stickers on Our Graves. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, eux, ce qu'ils veulent quand ils mourront, c'est qu'on leur laisse, qu'on pose des autocollants sur leur tombe. Allez, cette fois-ci, je vais être un peu moins bavard. On va rester dans le même délire que Not Scientist, vu qu'on va s'écouter un morceau de Anita Babyface and the Tasty Ponies, groupe qui avait le même batteur que Not Scientist, parce que je crois que ça n'existe plus. Je crois qu'ils ont fait juste un seul album qui s'appelle Kiss the Moustache, dont le titre que je vais passer est issu, hein, qui s'appelle Our Greatest Times Won't Disappear. Donc le autre point commun entre Anita Babyface et Not Scientist, et ben c'est que donc l'un des membres, donc guitariste chanteur de ce groupe, n'est autre que le frère du guitariste chanteur de Not Scientist. Donc voilà, encore une fois, ça reste quand même très consanguin tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fout le chat ? Oh, il fait un bordel. Et puis je vais également en profiter pour vous dire au revoir pour cette fois-ci. Comme je l'ai dit, hein, j'espère d'ici assez peu de temps vous retrouver avec un nouvel épisode de Cornelius and Zira qui sera consacré à La Planète des Singes, le film de 1968. On va en profiter pour faire les remerciements habituels. Hein, donc on va remercier les gens de PodCloud, hein, parce que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cornelius and Zira et la hip-list sur PodCloud. Vous pouvez également maintenant me retrouver sur iTunes depuis peu. Je vais pas pouvoir remercier tous les gens qui m'ont fait des retours sur les précédents épisodes, parce que là, il commence à avoir pas mal de monde, vous reconnaîtrez, hein, merci à tous. Et je vais quand même faire un remerciement et un coucou plus particulier à Draven et à Julien, donc de 24FPS. Déjà, Draven, parce qu'indirectement, c'est lui qui m'a donné l'idée de faire cette hype-list, parce qu'il m'avait fait un retour sur la précédente, en disant que même si la thématique n'était pas très joyeuse, c'était quand même marrant, et que je lui avais répondu le prochain sera sur la Toussaint, mais en fait c'était juste une connerie. Après, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas. Et également, l'un des derniers épisodes de 24FPS était consacré à Jodorowsky's Dune, hein, donc le docu sur l'adaptation de Dune, enfin la tentative d'adaptation de Dune par Alejandro Jodorowsky. Et donc, ils en avaient profité pour parler de l'épisode que moi j'avais fait il y a quelques mois. Et donc, j'avais eu quelques retours par rapport à ça. Donc, ça fait toujours plaisir. Un coup de main n'est jamais malvenu. Peut-être aussi pour être un peu plus sérieux, j'ai un peu déconné sur la Toussaint, malgré tout, je prends pas ça non plus à la légère, hein. Je sais que c'est des moments de recueillement où on pense à nos êtres chers disparus, et c'est pas parce que là j'ai l'air de déconner que ça m'amuse particulièrement. Mais finalement, si j'avais envie de terminer par ce morceau d'Anita Babyface, c'est parce que le titre c'est Our Greatest Time Won't Disappear, dans le sens où ça sert à rien de pleurer sur les gens qui sont partis. Mieux vaut se rappeler des bons moments, et la meilleure manière d'honorer nos morts, c'est peut-être simplement d'être heureux d'être vivant. Voilà, donc je sais pas ce que vous faisiez en écoutant cette Ape List, mais j'espère que dans tous les cas que ça vous aura donné le sourire. Et en attendant de se retrouver, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt les Spartiates!
To be sad, I won't be far away tomorrow. Bonne fête des morts, mesdames. Ah, là, 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 là.